Dans ce que je vais vous dire, je n'aimerais froisser personne et je n'aimerais choquer personne. Mais ce que j'ai compris à travers ce chapitre 8 de Daniel a quand même transformé ma relation à Dieu et je ne peux pas vous quitter sans vous en parler. D'abord quelques éléments. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levais, je m'occupais des affaires du roi, j'étais étonné de la vision, marré. Donc il n'est pas étonné de l'ensemble de la vision, il est étonné de cette portion où il a vu le parlant et où il a vu un saint s'adresser au parlant. Et la réponse de celui-ci, 2300 soirs et matins, puis le saint sera justifié. Un temps qui sera la fin. La vision concerne un temps de la fin. Verset 19, ce qui arrivera au terme de la colère. Verset 23, pour mettre le comble au péché. Et enfin, la vision est pour des temps éloignés. Et l'ensemble de ces éléments dans la vision nous permet de penser qu'il y a une montée croissante du péché jusqu'à un comble auquel Dieu sera obligé de mettre fin. Ça rejoint ce que nous voyons dans l'Apocalypse quand il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que le juste pratique encore la justice, mais que celui qui est souillé se souille encore. Et donc, si vous voulez, l'humanité s'oriente peu à peu vers une situation où l'ensemble ne sera fait que de deux camps, ceux qui sont entièrement à l'Éternel et ceux qui sont entièrement contre l'Éternel et contre son peuple. Le deuxième élément, c'est dans vision et apparition, avec marée et chazon, que j'aimerais vous présenter. Daniel 8.1, Daniel a une vision, mais c'est chazon. Pendant la vision, c'est chazon. Daniel 8.13, vision sur le sacrifice perpétuel. Daniel 8.15, Daniel réfléchit sur la vision. Maintenant, marée. Eh bien, la première fois que ça apparaît, c'est dans Daniel 8.15, mais c'est avec le sens d'apparence. D'apparence, mais comme c'est un personnage divin, il n'est pas impossible que ça ait déjà le sens d'apparition. Mais gardons-lui le sens d'apparence. Par contre, au verset 16, il est dit « Gabriel explique-lui la vision ». C'est-à-dire ce moment où ce personnage, ce parlant, lui dit 2300 soirs et matins, puis le saint sera justifié. Je complète là où vous avez encore vision, hein, qui est pour la fin, dans 8-17, et dans 9-21, Gabriel est vu dans la vision. Maintenant, marée, vous le trouvez encore au verset 26, mais c'est là la vision des soirs et des matins. Vous le retrouvez au 27, j'étais étonné de la vision. Mais au chapitre 9 et au verset 23, Gabriel, qui n'avait pas pu expliquer la vision, lui dit « Je viens », il lui dit « Comprends la vision ». C'est-à-dire « Je viens pour t'expliquer la vision ». Mais c'est l'ordre qu'il avait reçu au chapitre 8. Et pas d'expliquer la vision en général, d'expliquer la marée. C'est 2300 soirs et matins. Et donc au chapitre 9, Gabriel vient avec pour mission, avec pour objectif d'expliquer cette vision des 2300 soirs et matins. Alors maintenant, j'aimerais, et c'est le plus gros morceau de cette partie, j'aimerais parler de la justification de Dieu ou de la justification du saint. Et vous vous rendez compte que la comparaison du chapitre 7 et du chapitre 8 nous met en face d'une double équation. Le jugement qui apparaît au chapitre 7, c'est la même chose que la purification du sanctuaire. Mais la purification du sanctuaire, ça n'est pas ce qui est dit explicitement en Daniel 8,14. C'est ce qui ressort de l'ensemble, parce que vous avez un service journalier, un tamid, et que ce tamid, ce service continuel, doit forcément se terminer à un moment donné par un service annuel, un service de purification. Vous ne pouvez pas tout le temps amener des péchés sur le sanctuaire sans qu'à un moment donné, il ne soit éliminé. Et donc, vous voyez que l'un appelle l'autre. Et notre pratique de tous les jours de demander pardon qui correspond au service journalier doit se terminer un jour par une purification. Et c'est le jugement. Donc, nous avons ces deux choses, ces trois choses, le jugement, donc le jugement de l'homme, mais nous avons la purification du sanctuaire, et nous avons aussi la justification de Dieu. Alors, est-ce que ces choses-là vont ensemble? Et même, on peut se poser la question, est-ce que Dieu a besoin d'être justifié? Et je sais bien que pour certains d'entre vous, ça peut apparaître étonnant. Et pourtant, nous avons des textes pour nous parler de cela. Et j'aimerais vous citer en particulier le texte de Romains. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Notez la force de ce verset. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Il faut que Dieu soit reconnu pour vrai. Et le texte va être encore plus précis. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur, selon qui est écrit, et c'est dans les psaumes, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes quand on te juge. C'est-à-dire que tu sois justifié. Je n'invente pas le texte. Alors je sais bien que ça paraît étonnant. Mais j'aimerais vous dire que je ne suis pas le seul à parler de la justification de Dieu ou de la vindication, comme disent les anglo-saxons. Et j'aimerais développer ce thème-là devant vous un petit peu plus. Vous avez donc là un premier texte qui nous parle de la justification de Dieu. Maintenant, le jour des expiations jusqu'au bout. Et vous avez vu que le transfert des péchés sur le bouc pour Azazel est ce qui correspond, ça fait partie du service du jour des expiations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces péchés chargés sur le sanctuaire, chargés sur le grand prêtre, et le grand prêtre, nous le savons, est l'image de Christ, tous ces péchés-là vont être reportés, confessés sur la tête du bouc pour Azazel. Et là, je vais lancer quelque chose dont j'espère que vous ne serez pas choqués. Mais vous vous rendez compte que tous ces péchés qui sont reportés sur Christ, Christ en est le porteur, oui, mais il en est le porteur temporaire. Jusqu'au temps où tout cela sera reporté sur Azazel. J'ai fait une expérience douloureuse et je pense que je vous l'avais racontée. Un jour, alors que j'expliquais ce qui se passe dans le sanctuaire, dans tout un groupe qui n'était pas habitué et pas spécialement connaisseur du sanctuaire, et j'expliquais ces choses et le transfert du péché. Et à la fin de l'exposé, quand j'arrive au bouc pour Azazel, Une des personnes de l'assistance m'a dit, mais alors si je comprends bien, le dernier qui porte mes péchés, c'est Azazel, c'est Satan. Alors c'est Satan qui me sauve. Et je vous avoue qu'il y avait là quelque chose d'une logique à laquelle, à l'époque, je n'ai pas su répondre. Maintenant, je saurai que répondre. Je ne sais pas si vous savez que certains commentateurs, certains théologiens en sont venus à dire que le bouc pour Azazel était une image de Jésus, parce qu'il portait nos péchés à la fin. C'est évidemment une erreur que l'on ne peut pas accepter, mais je vous dis, ça existe. Ça existe. Et je ne peux pas aller dans ce sens-là. Et donc, je rapproche ces deux événements. Le fait que les péchés sont reportés sur Azazel est la justification de Dieu. Si les péchés étaient jusque-là sur Jésus et sont reportés sur Azazel, alors ça veut dire que Dieu est justifié, qu'il est dégagé de ces choses-là. Je sais bien que c'est une autre manière de voir les choses, mais je vous avoue que pour moi, ça m'a éclairé, et ça m'a éclairé parce que c'est en droite ligne de ce jour des expiations, avec, au bout du compte, le report des péchés sur Azazel. Alors, ce bouc qui va être conduit au désert, sur 3 jours de marche, et on va attendre que celui qui l'a accompagné reviennent au camp pour pouvoir commencer la fête des cabanes, Soukhot. Et pour pouvoir commencer la fête, c'est une image du millénium. Ce Satan conduit au désert, cet Azazel, ce bouc pour Azazel qui est conduit au désert et qui va y mourir, mais qui ne sera pas sacrifié. C'est le seul animal dans toute cette série de sacrifices qui, lui, n'est pas sacrifié. Et Satan ne sera pas sacrifié. Et pendant 1000 ans, Satan va se trouver sur une terre déserte. Il va contempler les résultats de son œuvre. Et c'est cela qui nous est dit à travers le bouc pour Azazel, mais il va contempler son œuvre chargée de tous ces péchés qui ont été confessés, qui ont temporairement été sur Christ, mais qui sont maintenant reportés sur le véritable auteur du péché. Une fois de plus, je vous le dis, je n'aimerais choquer personne. Mais je suis obligé de vous dire quand même que des éléments de la justification du saint sont ailleurs dans le texte. Et j'aimerais vous parler maintenant du sanctuaire céleste avec cette nécessité de le purifier. Combien de fois ai-je entendu que le sanctuaire céleste, rien n'y était commis de mauvais et que par conséquent il n'avait pas besoin d'être purifié comme le sanctuaire terrestre. Eh bien, regardez ce texte des Hébreux, Hébreux 9. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Mais sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux. » Dans les cieux, il y a la réalité. Sur la terre, il y a les images. Donc, les images qui sont sur terre avait besoin d'être purifié. Mais il était donc nécessaire, puisque les images doivent être purifiées, que les choses célestes elles-mêmes, c'est-à-dire l'original, le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Par conséquent, le sanctuaire céleste, lui aussi, et malgré ce que nous pouvons penser, le texte est là, ont besoin d'être purifiés. Ah, il faut qu'on s'explique un petit peu. Et là, j'aimerais dire que cette justification de Dieu m'apparaît dans deux occasions. Et je vois la justification du saint une fois à l'occasion du jugement de la maison de Dieu et du jugement des vivants en particulier. Et je vois une deuxième occasion pendant le millénium, lors du jugement des réprouvés. Et laissez-moi vous montrer cela. J'aimerais vous montrer maintenant, et je ne sais pas si vous le voyez, si les couleurs ont été bien choisies, malheureusement peut-être pas, mais j'aimerais, vous le voyez là ou non ? Oui, c'est difficile. Bon, pardonnez-moi, j'aurais dû choisir d'autres couleurs, mais j'ai repris ça de notre montage et je n'ai pas été clairvoyant. Mais pardonnez-moi. Mais j'aimerais comparer devant vous deux textes. Apocalypse 5.12 et Apocalypse 7.12. L'un se trouve au début du jugement, dans la scène d'inauguration du jugement. Et vous avez là un texte où les anges disent à l'agneau immolé qui est là, « Tu es digne de recevoir » et vous avez une série de sept éléments. « Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et puis au chapitre 7 et au verset 12, « Alors c'est une louange qui est adressée à l'agneau et à Dieu, et où il est dit « Amen ». À toi soit la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Quand vous comparez ces deux listes, voyez que la puissance s'y trouve dans les deux cas. Il y a eu un décalage, là je suis désolé, mais c'est la puissance qui devrait être surlignée. La sagesse, vous la trouvez des deux côtés. La force, vous la retrouvez également. L'honneur, vous le retrouvez également. La gloire, vous la retrouvez également. Et la louange, vous la retrouvez également. Vous n'avez qu'un élément des deux côtés. Les deux ont sept éléments. C'est la richesse et l'action de grâce. Je me suis interrogé là-dessus et je me suis rendu compte que la richesse, au fond, quelle est la richesse de Dieu ? Il peut produire tout l'or qu'il veut, toutes les perles qu'il veut, mais il y a une chose qu'il ne peut pas produire. Une chose où il dépend de nous, c'est notre reconnaissance. Et si je m'adresse là aux parents, reconnaissez que ce qui vous fait le plus plaisir en tant que parent, c'est que les enfants reconnaissent ce que vous avez fait pour eux. Et la reconnaissance que nous pouvons avoir avec Dieu, ça c'est la richesse de Dieu. Parce que c'est la seule chose qu'il ne peut pas produire seul, qu'il doit attendre de nous, si j'ose dire. C'est notre reconnaissance. Et par conséquent, la richesse là, dans la première liste, c'est l'action de grâce de l'autre côté. Mais il y a une différence beaucoup plus forte entre ces deux listes. La différence, c'est que d'un côté, il est dit « tu es digne ». Oh, la dignité de Dieu est reconnue. Mais si je dis à mon fils « tu es digne d'un ordinateur », est-ce que ça veut dire qu'il a l'ordinateur ? Non. Il en est digne. Ou tu es digne d'une voiture, parce que tu as bien travaillé, parce que si, parce que là, d'accord. Et vous voyez toute la différence qu'il y a entre le fait de dire « tu es digne » et au chapitre 7, « à toi et la gloire, la louange ». C'est-à-dire que là, c'est acquis. J'espère que vous sentez toute la différence entre ces deux textes. Et à ce moment-là, il nous faut nous demander que s'est-il passé entre le chapitre 5 et le chapitre 7, pour que les anges et la société céleste dans son ensemble disent d'un côté « tu es digne », mais de l'autre côté « ça y est, c'est acquis ». Et quand vous regardez cela au chapitre 7, ce qui vient de se passer, c'est le scellage des 144 000. C'est-à-dire que le scellage des 144 000 pour l'univers entier est une preuve, est un acquis pour l'ensemble de la société céleste que Dieu a maintenant. Ce dont on le savait digne, mais que maintenant c'est acquis. Alors est-ce que l'état des 144 000 est à ce point important qu'il justifie Dieu ? J'aimerais vous le faire sentir d'une autre manière et vous l'exprimer d'une autre manière. Je vais comparer l'action de Dieu, l'action de Christ quand il nous pardonne, à l'action d'un juge qui libère un coupable. N'avez-vous jamais dit ou n'avez-vous jamais entendu dire « mais si Dieu existait, il n'aurait pas fait ceci ou cela ». Ne vous êtes-vous jamais posé la question « mais pourquoi Dieu a-t-il créé Satan ?» Et une fois qu'il l'a créé et qu'il a vu les dégâts que ça commençait à faire, pourquoi ne l'a-t-il pas détruit ? Et vous voyez que ça, ces questions, elles reviennent, et elles reviennent en permanence. Mais quand nous disons cela, est-ce que nous n'accusons pas Dieu ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dire « mais il aurait pu faire mieux » ? Est-ce que Dieu ne doit pas être justifié de cette suspicion ? Vous comprenez ? J'essaie de vous dire que dans notre raisonnement, dans notre questionnement, nous nous posons la question de la justification de Dieu. Eh bien, je crois que la justification de Dieu arrivera et viendra, et que nous aurons des réponses à ces questions. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes heureux que Jésus vous pardonne ? Est-ce que vous êtes heureux que Jésus, au lieu de dire « celui-là il a péché, je l'élimine », dise « non, je lui donne une autre chance » et une autre encore derrière. Et il va dire à Pierre, non pas 7 fois comme le disait Pierre, mais 70 fois 7 fois. Et donc vous voyez qu'il y a là une action de Dieu qui nous donne une autre chance et nous voudrions qu'il l'ait supprimée à Satan, mais nous, nous l'accepterions pour nous. Mais si nous l'acceptons pour nous, Satan était une de ses créatures et pendant des milliers d'années, Dieu a cherché à sauver Satan et ses anges. Et donc c'est le pardon même de Dieu, cette capacité à nous donner d'autres chances que nous contesterions si nous lui contestions le fait d'avoir gardé en vie Satan. Mais tout cela doit être justifié. En quoi les 144 000 viennent-ils justifier ? Et je reviens à l'image du juge qui relâche un coupable. Mais quand il relâche le coupable, il se rend ipso facto co-responsable de tout ce que ce coupable va commettre à ce moment-là. Quand Jésus me pardonne, il se charge de mes fautes, mais pas simplement par transfert, il s'en charge parce qu'il devient co-responsable de ce que je fais derrière. S'il m'avait éliminé, je n'aurais pas commis toutes les fautes derrière. Et là, c'est une manière de penser qui est sans doute un peu différente du schéma que nous avons d'habitude. Mais en me pardonnant, et je le mets entre guillemets, Jésus prend des risques. il prend le risque de se faire mal juger. En laissant à Satan d'autres chances, il prend le risque de se faire mal juger. Et il doit se justifier. Voulez-vous que je vous dise que c'est Satan qui aimerait qu'il nous élimine? Quand vous lisez dans Jude, par exemple, que Satan contestait à Jésus le corps de Moïse, s'il le lui contestait, c'est parce qu'il pensait avoir des droits. En somme, il est en train de lui dire « Tu ressuscites Moïse, mais tu n'as pas le droit. Moïse est un pécheur. Il doit mourir. » Alors Jésus va le ressusciter quand même, puisqu'on voit qu'il est présent. Il est présent lors de la transfiguration. Mais vous voyez que l'ennemi, lui, aurait aimé que s'applique cette loi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, et tu mourras de manière définitive. Eh bien, Jésus n'a pas obéi à cette loi. Mais ce faisant, il tombe sous le coup de l'accusation, ou excusez-moi, de Satan. Il tombe sous le coup de la suspicion de ne pas avoir appliqué la loi. Alors je reviens au juge. Quand le juge relâche un coupable, qu'il remet en liberté quelqu'un qui est capable de nouveau de commettre le mal, qu'est-ce qui va justifier ce juste-là, ce juge-là? Mais c'est la conduite que va avoir celui qu'il relâche. Si celui qu'il relâche se conduit bien, alors on va pouvoir dire le juge a eu raison de le faire. Mais s'il se conduit mal, alors non seulement on va condamner celui qui de nouveau s'est enfoncé dans le péché, mais on va dire au juge, tu vois, tu es responsable de tout ça. Donc la conduite de ceux qu'il relâche, c'est cela qui va justifier le juge. Et quand les 144 000 qui ont remporté la victoire sur tout péché, et je vous rappelle ce qu'avaient été nos études sur l'Apocalypse, quand ces gens-là sont scellés, ils sont la preuve que Jésus a bien fait de les pardonner et de les relâcher. Son action de pardon est justifiée à ce moment-là. Et j'aimerais vous amener vers une deuxième aspect de la justification et conclure par cela. C'est la justification pendant les 1000 ans. Vous savez que nous serons appelés à juger pendant les 1000 ans. Alors nous allons juger Satan, nous allons juger les démons. Mais il se trouve que cette période est comparée à un festin, le festin des noces de l'agneau. Et j'ai l'habitude de dire, si il s'agit pendant 1000 ans de regarder tout ce que les mauvais ont fait de mal, eh bien, ce ne sera pas un festin. Mais par contre, ce que nous allons examiner aussi, mais sous un autre angle, c'est tout ce que Dieu a fait pour le salut de tous ceux qui sont perdus, qui n'ont pas vraiment voulu accepter ce salut. Et alors ça, mes amis, ça, c'est un festin. Se rendre compte de toutes les interventions de Dieu. Se rendre compte qu'il a pris chacun et qu'à chacun il a donné toutes les chances de salut. Qu'il a donné toutes les occasions de salut. Ça, c'est un festin. Et alors il pourra dire, comme le dit Ésaïe au chapitre 5 sur la parabole de la vigne du bien-aimé, que j'aimerais vous lire maintenant. Maintenant donc, alors vous connaissez la parabole du bien-aimé, il a planté une vigne d'un plan parfait, d'un plan excellent, il l'a planté sur un coteau bien ensoleillé, il a construit une tour, il a bâti une barrière autour, il a fait un pressoir, il a fait tout ce qu'il fallait pour sa vigne. Sa vigne, c'est Israël. Et il dit, maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Est-ce que vous réalisez que dans ce texte, Dieu demande à être jugé? Il dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Et là, la question qui se pose, et que nous allons devoir examiner pendant les 1000 ans, est-ce que Dieu pouvait faire plus pour chacun sur cette terre? Et la réponse sera non. Il a fait tout ce qui pouvait être fait pour chacun. Mais il va falloir que nous le constations. Et vous voyez que juger n'est pas pris dans le sens d'évaluer Dieu, de juger s'il est plus ou moins bien, bon, mais de constater. Le jugement à ce moment-là est un constat. Et on constate que Dieu a fait tout ce qu'il était possible de faire pour le salut de chacun. Qu'y avait-il à faire encore pour ma vigne? Et quand pendant 1000 ans, nous aurons constaté que Dieu avait fait tout ce qu'il était possible de faire, alors Dieu va sortir justifié. On ne pourra pas dire, mais si Dieu avait fait ceci, ou s'il avait fait cela, ou s'il s'y était pris autrement, les choses auraient été mieux. On ne pourra pas le dire. Et j'aimerais vous en donner une dernière preuve. Cette dernière preuve, je la trouve dans Apocalypse 20, 11. À l'issue des 1000 ans, quand tous les ressuscités sont là, les méchants, mais les bons qui sont ressuscités depuis le retour de Christ. Et puis les méchants ressuscités qui sont là juste depuis peu. À ce moment-là, le texte nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. » Et pour la première fois dans toute l'histoire, pour la première fois dans toute la Bible, le trône de Dieu apparaît blanc. Et vous savez ce que ça signifie, blanc. C'est-à-dire que Dieu, après 1000 ans d'examen de toute l'histoire, d'examen des méchants bien sûr, mais d'examen de tout ce qu'il a fait pour chacun, alors il apparaît aux yeux de chacun qu'il est justifié, qu'il n'a rien à voir avec le péché, qu'il l'a combattu de toutes les manières. Son trône, le symbole du jugement, c'est en tant que juge qu'il est sur le trône. Dieu est assis, nous dit le psaume, sur son trône en juste juge. Alors son jugement apparaît hors de toute accusation. On ne pourra plus l'accuser d'avoir laissé vivre Satan. On ne pourra plus l'accuser d'avoir laissé mourir les chrétiens dans les arènes. On ne pourra plus l'accuser de tout cela, parce qu'on verra qu'il n'a eu qu'un objectif auquel il s'est donné entièrement et auquel il employait tous ses moyens, c'est le salut de tous. Son trône apparaît blanc. Il est justifié. Et vous voyez donc que le processus du jugement qui commence dans Daniel 7 et qui nous est révélé à travers la purification du sanctuaire, le texte de Daniel 8 est en train de nous dire que cette purification du sanctuaire, c'est la justification du saint. À partir de cette période, et nous verrons demain que c'est en 1844, mais à partir de cette période-là commence un processus de justification de Dieu qui va durer jusqu'à la fin des 1000 ans. C'est un processus de jugement de l'homme, mais comme nous le dit le texte de Romains, ce jugement de l'homme, il conduit à la justification de Dieu. Eh bien, que Dieu nous aide à voir clair dans ces choses-là. Et une fois de plus, je ne voudrais choquer personne, mais je voudrais vous dire que ces choses-là, rassemblées dans ce faisceau que je viens de vous présenter, qui est peut-être un peu long, a changé ma conception du jugement, a changé ma compréhension de Daniel 8 et a changé ma relation à Dieu. C'est autre chose que je vois maintenant. Et je ne veux pas bloquer qui que ce soit dans une interprétation. Mon propos n'est pas là. Mais mon propos est de dire que le texte de Daniel 8 va peut-être bien au-delà de ce que nous imaginons à première lecture.